Natal. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. Le gouvernement congolais a retiré des licences d'exploitation des services aériens à 3 autres compagnies. Cela porte à 13 le nombre des compagnies congolaises dont les licences sont retirées depuis le début de cette année. Le ministre de Transport et Voies des Communications qui l'a annoncé samedi dernier. L'objectif poursuivi par cette opération est de retenir pour opérer en RDC que les compagnies aptes et fiables. Que pensez-vous de cette mesure? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Mise en onde par Jean-Claude Nsiala, Berry Franklin Luchaka et Rose Nianfoura sont à la réalisation et Pierrot et la Meji vous présentent cette émission sous la supervision de Nicole Ngaka. Et en ligne, en direct, nous en parlons avec Monsieur Jean-Marc Pajot, directeur des Fly SAA, une des compagnies aériennes opérant en RDC. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Pour le ministre des Transports et Voies des Communications, Justin Kalumba, qui avait annoncé le 12 avril cette décision, ce verdict intervient au terme des exigences de la phase 2 du processus de recertification des compagnies aériennes opérant dans le pays, tel qu'est recommandé par l'Association internationale des transporteurs aériens IATA. Les compagnies frappées par ces décisions sont Biega Airways, Congo Express et Okapi Airlines. Comme on venait de le dire, c'est la porte à 13, le nombre des compagnies dont les licences d'exploitation ont été retirées. Comment commentez-vous cette mesure du gouvernement congolais? Quel pourrait être son apport? Vous pouvez également mettre votre point de vue dans cette émission, mais je le disais tout à l'heure, nous avons en ligne M. Jean-Marc Pajot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de ces sujets. Pour vous, au niveau des compagnies aériennes, comment accueillez-vous cette mesure du gouvernement congolais?
Écoutez, cette mesure est une décision qu'on salue parce que nous sommes en train d'assainir, le gouvernement a décidé d'assainir le secteur de l'aviation civile en RDC. C'est une mesure, comme ça a été mis dans votre introduction, c'est une mesure administrative, le processus continue, donc on vient de terminer maintenant la phase 2 de la recertification qui sont l'évaluation des candidatures, des certificats de post-holder, des avions, des destinations qui vont être volées par les exploitants, etc. Et donc à la fin de cette phase 2, eh bien, on arrive au bilan que 13 compagnies ont déjà été arrêtées et ne sont pas conformes en fait à la réglementation de la RDC. Mmh. Donc je dirais quelque part la décision est bonne. En fin de parcours, quand toutes les phases de certification seront terminées, il restera en RDC que des compagnies conformes à la réglementation internationale érigée par l'OACI et donc à la réglementation nationale congolaise.
Mmh. Mais où, à quel niveau s'est trouvée la faille pour qu'on ait des compagnies qui ne répondaient pas aux normes? La faille, c'était au niveau de ce qui s'est lancé dans la création des compagnies ou bien plutôt au niveau des services du service public?
Non, je pense que, vous savez, dans la certification, il y a beaucoup de compagnies qui se sont créées lorsque l'aviation civile a été libéralisée, lorsque les compagnies privées ont pu commencer à voler. Donc je dirais un peu tout le monde qui avait un peu d'argent, un avion et de bonnes idées et de l'ambition avait la capacité d'ouvrir une compagnie aérienne. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'abord, on est passé sur la liste noire depuis le 22 mars 2006. Mmh. Donc, je dirais qu'on est devenu... En fait, le pays a commencé à attirer, si vous voulez, l'intérêt et le regard des instances internationales comme l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et l'IATA. Et maintenant, De cette phase-là, une nouvelle réglementation nationale a été mise en place depuis le 31 décembre 2010. Et cette réglementation ensuite a été éditée, ce qu'on appelle les réglementations de l'aviation civile congolaise, qui ont décrit, si vous voulez, tous les standards et toutes les recommandations de l'OACI. Et maintenant que nous sommes en train de passer la phase de certification, on se rend compte que certaines compagnies qui existaient et qui opéraient en RDC, comme dans d'autres pays, hein, vous savez, on n'est pas unique, eh bien ne rencontraient plus, en fait, si vous voulez, ou ne rencontraient pas les critères demandés au niveau international. Mmh. Alors, au moment de la certification, il y avait deux options, c'est-à-dire que soit on avait le temps, ou les compagnies avaient le temps de se préparer pour se rendre conforme, et si elles n'avaient pas le temps ou ni les moyens de se rendre conforme, eh bien, finalement, administrativement, le processus, c'est-à-dire que le processus qui est conduit par l'autorité de l'aviation civile congolaise, il faut quand même le rappeler, à l'instar de son excellence le ministre des Transports qui lui-même a lancé ce programme de recertification des compagnies congolaises, eh bien, à la suite de tous ces processus, eh bien, on est arrivé à, malheureusement, je veux dire, faut le dire, mais donc 13 compagnies ont déjà été éliminées du processus.
Mais quand on regarde le processus, bien sûr, là, nous faisons le débat parce qu'on incrimine les compagnies qui ne répondent pas aux normes, mais vous, au niveau des compagnies, qu'est-ce qu'il faudrait aussi à côté de ce que l'État fait avec les compagnies pour que l'État aussi puisse améliorer? Il y a aussi les conditions de navigabilité, il y a la viabilité même des infrastructures. Est-ce que cela s'accompagne dans le décan?
Écoutez, pour avoir une aviation conforme, il faut principalement trois grands thèmes qui doivent être certifiés. La première chose, c'est d'avoir une infrastructure. L'infrastructure, si vous regardez en RDC, nous avons 235 pistes aéronautiques. Nous avons, dans ces 235 pistes, nous avons 54 aérodromes qui sont gérés par la régie des voies aériennes. Et dans ces 54 pistes aujourd'hui, aucune de ces pistes et aucune de ces infrastructures n'a aujourd'hui reçu la certification de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Mmh. Donc, il est clair, et son excellence, et ainsi que tout le gouvernement actuellement, sont derrière ce processus de réhabilitation des pistes et des infrastructures. C'est un projet qui est un projet à long terme. Il y a aujourd'hui la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ainsi que d'autres partenaires qui contribuent à la rénovation et à l'assainissement de cette infrastructure. On le voit déjà au niveau de Djili à Kinshasa, donc l'aéroport est en progrès. On voit que les travaux continuent à l'aéroport de Lubumbashi, Kisangani, Goma, on est en train de rénover la piste de Goma, on a mis en place une infrastructure complémentaire à Kindu, et d'autres pistes. Donc c'est un projet, c'est un voyage qui va durer du temps, mais c'est clair que une des priorités qui doit absolument être donnée par le gouvernement, c'est la certification de ces infrastructures, en tout cas en priorité pour les infrastructures qui reçoivent en fait des collègues des compagnies internationales, d'une part, et puis bien sûr de plus en plus dans le pays, puisque le pays a besoin d'un désenclavement et d'un projet dynamique qui permet d'assurer et d'accélérer l'échange de biens et de personnes entre les différentes destinations congolaises. Alors, le deuxième thème, c'est bien sûr l'aviation civile. Bon, l'aviation civile, elle a besoin d'avoir son autonomie. Une autorité de l'aviation civile digne de ce nom doit être autonome, elle doit avoir ses budgets de fonctionnement. Et c'est clair que, bon, il y a des progrès dans ce sens, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Je pense qu'il faut aider cette autorité à avoir son indépendance et pouvoir conduire, en fait, son travail, qui est un travail principalement basé sur la sécurité. Et donc c'est un travail d'accompagnement, que ça soit des exploitants, que ça soit des sous-traitants, que ça soit des différents acteurs qui agissent dans le secteur de l'aviation civile. En fait, l'autorité de l'aviation civile a un rôle de supervision continue. Et c'est cette supervision continue qui va permettre d'améliorer et de régler progressivement l'entièreté des problèmes de sécurité que nous avons.
Et le troisième thème, rapidement, pour terminer.
Alors le troisième thème, c'est bien sûr la certification des compagnies aériennes. Donc la certification des compagnies aériennes doit être accompagnée et certifiée par une autorité de l'aviation civile qui est en fait devrait être à thème autonome et pour opérer sur une infrastructure agréée.
Voilà, merci. On va revenir à vous le temps d'écouter aussi les auditeurs de Radio Okapi, ceux qui sont concernés par des voyages parce que de temps en temps vous prenez des avions. Que pensez-vous de cette mesure du gouvernement? Qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir pour consolider tout cela? 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Suzy, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute. Que pensez-vous de cette mesure?
Je salue cette mesure. Je dirais que le gouvernement se réveille enfin parce que on a eu à être vraiment triste de perdre beaucoup de vies humaines. Mais l'aviation est un domaine réservé à des professionnels.
Mmh.
Mais dans notre pays, on a tendance à être complaisant, léger. Et c'est vraiment bien qu'ils interdisent cela. Et j'espère que ces compagnies frappées par cette sanction ne pourront pas la contourner en ouvrant d'autres compagnies sous d'autres noms avec les mêmes failles pour les mêmes problèmes. J'espère vraiment que ça sera comme ça et qu'on pourra aller de l'avant. Mais en même temps, je voudrais savoir si le fait de frapper ces compagnies ne va pas avoir un impact sur les billets d'avion. Parce que déjà, chez nous, un billet d'avion coûte extrêmement cher. Alors je voudrais savoir si cette décision n'aura pas un impact sur les billets d'avion à l'avenir.
Merci. On pourrait bien demander à notre invité, hein, qui sont dans l'exploitation, si le fait qu'on puisse frapper des compagnies, cela peut avoir des répercussions sur l'augmentation du prix du billet d'avion. Mais vous souhaitez aussi, hein, qu'on puisse être trop regardant pour éviter que les compagnies qui sont aujourd'hui frappées sous un nom ne puissent contourner la décision pour se couvrir et créer d'autres sous d'autres noms. Merci beaucoup, Suzy, de nous avoir appelé de Kinshasa. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité aussi, à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute, Franck. Que pensez-vous de cette mesure?
Merci beaucoup pour la parole. Chez nous, nous le savons tous que dans le secteur aérien, il y a encore des séries de mesures techniques strictes à prendre afin de crédibiliser l'espace aérien congolais et surtout l'état technique des appareils à utiliser pour la circulation des citoyens.
Mmh.
Ainsi, personnellement, je trouve que c'est une excellente mesure. Si des licences sont retirées à certaines sociétés aériennes, après avoir pris conscience des dispositions techniques déficitaires de leur part. Mais là aussi, comme notre compatriote qui venait d'intervenir avant moi vient de mettre son avis, il faut que nos autorités évitent de déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Ça signifie qu'on ne retire pas la licence à une société déficitaire pour aller l'octroyer à une autre qui ne remplirait pas non plus les mêmes critères techniques. Car chez nous, nous devons aussi le dire avec la lucidité et la franchise qu'il faut, qu'on nous habitue parfois de plus en plus à cette logique de « ôte toi de là que je n'y mette ». La mesure est louable pour la sécurité aérienne du ciel congolais, à condition que les mêmes licences ne soient plus accordées à certaines autres sociétés qui ne rempliront pas les mêmes critères techniques. Sinon, on aura fait du surplace. Merci beaucoup et on écoute aussi les avis des autres compatriotes.
Merci beaucoup, messieurs. Vous avez rejoint ceci en disant il ne faudrait pas qu'on puisse, comme on a toujours dit, déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Cela veut dire on retire la licence à quelqu'un, on va l'octroyer à une autre, mais qui aussi elle ne répond pas. L'invité pourra nous dire quelles sont les mesures, les contrôles aujourd'hui qui sont mis en place pour éviter qu'on puisse tomber dans ces genres de trafic d'influence. Merci beaucoup, Franck. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Philo.
Et on vous écoute. Il y a des amis qui saluent, tout le monde salue la mesure. Elle est vraiment salutaire pour permettre à ce qu'on puisse avoir cette sécurité dans l'espace aérien. Mais comment consolider cela pour l'avenir?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois que je ne peux que saluer, comme mes prédécesseurs, la mesure. Mais le problème ne se passe pas au niveau des mesures qu'on est en train de prendre. Le problème doit être résolu en amont. Parce que c'est un problème d'abord technique. Le problème technique se résout par des éléments pratiques. D'abord, la première chose, c'est la qualité des avions. La seconde chose, c'est la qualité des infrastructures qui doivent accueillir ces avions-là. Nous sommes dans un pays post-conflit et nous avons connu une grande crise pendant une longue durée que nous devons maintenant nous rechercher en quelque sorte. Et dès que nous sommes en train de nous rechercher, nous devons avoir des mesures efficaces. L'efficacité ne viendra que par l'apport du gouvernement en créant des entreprises qui sont nationales. Les entreprises nationales aussi, quand c'est créé, ça doit avoir des éléments pour couvrir d'abord les failles que nous avions eues avec notre société antérieure. Aujourd'hui, la mesure du ministre ne peut être efficace que si nous avons quelque chose qui nous appartient à nous d'abord. À partir de là, ceux qui viendront investir, concurrencer cette entreprise, auront maintenant des normes à suivre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez rien, vous refusez les matériels qu'on vous présente au moment où vous avez rien. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous tournez les deux, les enfants ramassent des ngaï-ngaï dans la rue. C'est ça le problème. Le problème de cela s'est passé au niveau d'abord de notre investissement à nous, qui va entraîner des belles investissements pour ceux qui viendront nous concurrencer. Voilà un peu mon avis.
Merci. Merci beaucoup, Arsène. Vous estimez, d'ailleurs, on a annoncé la création de la compagnie nationale. Vous estimez que quand on a une compagnie nationale elle-même qui respecte les normes, les privés qui pourront venir pour exploiter, ils ont une ligne de conduite, ils ont déjà un point de repère. Mais si on n'a pas une compagnie nationale, le fiable, ça sera difficile que la mesure puisse tenir. Merci beaucoup. Nous allons écouter Mathieu qui est à Kananga et on va revenir à notre invité pour commenter les points de vue de nos auditeurs. Mathieu, vous êtes avec nous des Kananga au Kassai Occidental. Bonjour. Dommage, on a perdu Mathieu et ça fait plaisir comme on a ouvert cette émission avec une voix féminine. S'il y a encore des voix féminines qui voudraient bien intervenir pour mettre leurs points de vue dans cette émission, 081-890-6315. On revient à vous directement, Monsieur Jean-Marc Bajot. Vous avez suivi nos auditeurs. Tout le monde salue la décision. On pense qu'elle est vraiment salutaire, mais il y a aussi un peu de réserve, un peu de peur par rapport à l'impact sur l'augmentation du prix de billets d'avion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut contourner la mesure de l'État pour pouvoir créer d'autres sociétés qui risquent encore de tomber dans les mêmes conditions? Voilà autant d'inquiétudes de nos auditeurs. Quel est votre mot que vous pouvez placer par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure?
Je vais déjà répondre à la question des mesures de l'État. Les mesures de l'État ont déjà été prises. Donc le fait que nous soyons dans un processus de certification des compagnies aériennes, cela veut déjà donner un signal fort qu'il n'y aura plus de nouvelles compagnies en République démocratique du Congo qui pourront voir le jour sans avoir passé le processus complet de certification. Donc je tiens déjà à rassurer les auditeurs que le passé est enterré. Et donc maintenant on est sur un nouveau processus qui est un processus qui est conforme et compatible en fait aux standards internationaux qui sont utilisés dans tous les pays du monde. Je veux dire, la RDC se met aux normes. Concernant les prix du billet, il faut savoir que le prix du billet il est sous la tutelle du ministère de l'économie et commerce sous la forme d'une grille tarifaire. Et cette grille tarifaire a été créée, et la dernière en date a été créée sous forme d'un arrêté ministériel 019 du 3 novembre 2004, et qui définit la manière dont on calcule le prix d'un billet. Donc, en fait, ça ne s'invente pas. Donc, là-dedans, vous allez trouver les modes de calcul d'un prix d'un billet d'avion pour une destination et un mode de calcul pour le transport du fret. Allô?
Oui, allô, on vous écoute, oui.
Ah, excusez-moi, je croyais qu'on était coupé. Alors, dans ce cas-là, je donne un exemple très simple. Si vous prenez un passager... En fait, le calcul d'un billet, c'est très facile. On a repris à l'époque, en 2004, tous les facteurs économiques de l'époque, c'est-à-dire le prix du carburant, le prix des assurances, le prix des avions, le prix des entretiens, le prix des redevances d'atterrissage, etc. On a mélangé tout ça et il est sorti un facteur économique, donc un facteur de calcul. Et à l'époque, je vous donne un exemple pour le transport des passagers en classe économique, eh bien le facteur est de 0,23 dollars par kilomètre et par passager. Donc je prends un passager, un auditeur qui veut voyager de Lubumbashi vers Kinshasa, il doit faire 1552 kilomètres, eh bien on va multiplier le nombre de kilomètres qui devra être parcouru fois ce facteur, 0,23, par kilomètre par passager.
Ah, voilà.
Une personne qui va voler pour 0,23 cents le kilomètre. Alors si je prends le 0,23 fois 1552 kilomètres, pour l'exemple que je viens de vous donner, 1552, ça fait 367 dollars, auquel il faut rajouter une TVA de 16%, auquel il faut rajouter les taxes qui sont les taxes légales. Donc ça va nous emmener grosso modo vers 450 dollars.
Oui.
Donc ça c'est normalement ce qu'un client devrait payer. Aujourd'hui il ne paye pas ça, il paye moins. Il faut savoir que depuis 2004, l'essence coûtait 0,7 dollars le litre. Aujourd'hui il coûte 1,7 dollars en moyenne le litre, c'est-à-dire qu'il a augmenté de plus de 132%. Et en 2004, nous n'étions pas encore sur la liste noire. Et quand nous sommes passés sur la liste noire européenne de 2006, eh bien, toutes les assurances ont augmenté. C'est-à-dire, le prix a vraiment explosé. Il faut savoir qu'en Europe, pour assurer un avion et pour assurer donc le corps d'un avion, ça coûte à peu près 1,5%, voire un maximum 1% en Europe ou aux États-Unis. Ici au Congo, ça coûte entre 5 voire 10%, et ça pourrait dans certains cas aller même jusqu'à 20% du corps de l'avion. Alors, en fait, en plus de ça, en RDC, nous avons aussi ce qu'on appelle des charges fiscales et parafiscales. Et donc, aujourd'hui, rien ne se crée, rien ne se perd. Il y a des coûts qui sont aujourd'hui très importants. Et si vous regardez, on n'est plus beaucoup de compagnies aériennes à voler en RDC, parce que la RDC est un des pays les plus chers au monde en termes de coûts d'exploitation. Mmh. Simplement, le carburant aujourd'hui représente à peu près 50% de notre coût d'exploitation. Donc, pour $100 de billets que je vends, je dois repayer $50 de carburant.
Oui, mais
ce genre de notion que je voulais donner. Mmh. Bon, maintenant il y a des dialogues avec le gouvernement. C'est clair qu'il va falloir que on assainisse ce phénomène-là. Des dialogues sont déjà en cours. Bon, ben, de toute façon, j'ai très confiance que les concertations avec le gouvernement.
Oui, mais il y a au-delà.
Donc,
oui.
Ce genre de choses va évoluer.
Voilà. Mais au-delà de l'administration, il y a aussi le ministre a parlé par rapport à la mise à niveau du personnel. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Comment les compagnies se débrouillent-elles aujourd'hui pour la mise à niveau de leur personnel? Pratiquement, comment cela s'est fait? Parce qu'il faudrait quand même qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies, aux nouvelles normes, comme vous l'avez dit. Et au niveau des compagnies, comment cela se passe-t-il?
Écoutez, c'est très simple. Maintenant que nous sommes aux normes internationales, l'autorité de l'aviation civile assure une surveillance continue de l'état des formations du personnel des compagnies, des compagnies aériennes. Alors, ça concerne bien sûr ce qu'on appelle le personnel navigant, c'est-à-dire les pilotes, qui doivent suivre une formation régulièrement et être à jour conformément aux règles internationales. Donc, c'est en cours. Et aujourd'hui, je peux vous dire que déjà sur les sociétés qui sont en cours de certification suivies à la loupe et à la pince à épiler, si je peux donner cet exemple. Mmh. Ensuite, il y a le suivi des personnels navigants, dans ce qu'on appelle les personnels navigants cabine, les hôtesses, les chefs de cabine. Oui. Qui doivent être également aux normes. Et puis derrière ça, il y a bien sûr tous les mécaniciens et tous les professionnels qui doivent assurer que ce soit le catering, ce qui est en fait la nourriture, donc la fourniture des repas à bord, tout ce qui est autour de l'avion, c'est-à-dire ce qu'on appelle le handling. Le handling, ce sont les tracteurs en fait qui font le push des avions, ce sont les camions qui viennent charger, décharger, les camions de ravitaillement de carburant. Toutes ces personnes doivent être formées. Et actuellement, l'autorité de l'aviation civile est à d'heures pour suivre et faire en sorte que ce suivi de formation et que tout ce personnel soit aux normes internationales, c'est-à-dire maintenant aux normes congolaises qui est conforme aux normes internationales. Donc un grand effort a été fait. Maintenant, les formations sont de plus en plus fortes ici en RDC. Je peux vous rappeler que la IATA est venue à commencer à certifier beaucoup de personnel ici en RDC, de tous les secteurs et de toutes les institutions, que ce soit l'autorité de l'aviation civile, la régie des voies aériennes, les compagnies aériennes, etc. Donc il y a eu des formateurs qui ont été formés, ouais. Donc on a créé des nouveaux instructeurs, en fait, les institutions internationales sont très fortement derrière la RDC, et je pense que il y a un programme de formation qui est très dynamique aujourd'hui et qui fait en sorte qu'en fait, on est en train de mettre à niveau le personnel des compagnies aériennes et des administrations congolaises.
Voilà, on va revenir à vous. Le temps d'écouter Francis qui est ici à Kinshasa et Mathieu à Kananga. Je rappelle encore à nos auditeurs que notre échange tourne autour de la décision du gouvernement congolais de retirer des licences d'exploitation à certaines compagnies aériennes qui ne répondent pas aux normes, 13 au total depuis le début de cette année. Que pensez-vous de cette mesure? Comment pouvoir consolider cela pour l'avenir? Maître Francis, gardez la ligne, ainsi que Mathieu qui est à Kananga. Nous allons vous accorder la parole. Mais je rappelle encore à nos invités, à nos auditeurs, que notre invité, c'est Monsieur Jean-Marc Pajot, qui est directeur de Fly CAA, une des compagnies aériennes opérant en RDC.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. lorsque le soleil se couche. 17 à 19 heures, bienvenue dans Capissoir.
Maître Francis, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à monsieur Jean-Marc ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, que pensez-vous de cette mesure du gouvernement?
Oui, encore une fois de plus, merci de m'avoir accordé la parole. Si on date du 12 avril 2014, au terme du processus de recertification tel que prôné par l'IATA, on a appris la décision du ministre des Transports tendant à retirer la licence à actuellement ces 13 compagnies. Mais c'est une mesure administrative, bien que en République démocratique du Congo, l'aviation civile a été libéralisée, mais l'État garde quand même le monopole par rapport à la réglementation. Donc sur ces points, je suis d'accord et je me rallie même à mes prédécesseurs qui ont loué cette mesure. Maintenant, monsieur le journaliste, nous connaissons très bien notre Congo. On prend des mesures, mais il n'y a pas de mesures palliatives. On reprend la licence. Mais sur terrain, qu'est-ce qui a été prévu comme mesure palliative? Rien du tout, on ne voit absolument rien. D'où, je vais émettre quelques recommandations. Premièrement, d'abord, il ne suffit pas seulement d'avoir des avions, mais il suffit aussi d'avoir des aéroports qu'il faut. En République démocratique du Congo, pour mémoire, nous avions actuellement 235 pistes aéronautiques qui sont d'ailleurs dans la grande partie dans un état de délabrement avancé. Deuxièmement, quand nous payons la taxe appelée GoPass, c'est pour réellement la réhabilitation des aéroports. Mais à chaque voyage que nous effectuons, nous payons le GoPass. Mais nous ne voyons rien que l'invité nous dise un peu où vont tout ce que nous payons comme GoPass. Troisièmement, les contrôles techniques appropriés. En amont d'abord, lorsque l'État veut donner la licence, il faut qu'il y ait un contrôle technique en amont. On doit s'assurer réellement, puisque nous sommes sur la norme internationale OACI, on doit s'assurer réellement que l'état de navigabilité de ces avions est un contrôle en aval, c'est-à-dire quoi? Au moment de l'exploitation. Il faut qu'il y ait un délai. Quand l'avion navigue pendant tel ou tel autre délai, on doit contrôler l'état de l'avion pour éviter tout ce que nous voyons aussi au Congo. Troisièmement, la professionnalisation de l'aviation civile. Ce n'est pas n'importe qui se réveille un bon matin, bon, parce que j'ai de l'argent, j'ai créé une compagnie, sans expertise comme ça, et ces avions deviendront des cercueils volants, ça va commencer à tuer des compatriotes, comme nous le voyons aujourd'hui. Quatrièmement, la nationalisation de l'aviation civile. On a tenté de libéraliser, mais trop de désordres sur terrain. N'importe qui vient créer une compagnie n'importe comment, et ces avions ne sont même pas adaptés au climat, ils ne sont même pas appropriés, il n'y a pas de confort. Les gens meurent bêtement comme ça. Et quatrièmement, la création d'une compagnie nationale d'aviation. Nous avions appris la création de la bouche des ministres ayant le portefeuille et les transports dans leurs attributions. Mais ils ne nous ont pas précisé sur la date et sur le nombre des avions que nous aurons réellement. Parce qu'on a dit que la ligne aérienne congolaise ne va plus fonctionner. Oui, bien sûr, mais j'ouvre aussi une parenthèse. Quel est le sort de ces agents-là qui ont des salaires?
Exactement, autour de ça, Maître Francis, je crois bien, nous préparons une émission Parole aux auditeurs avec le ministère de Transport. Vous serez fixé quand on pourra voir la disponibilité au niveau du ministère pour effectivement faire le point sur le projet, sur la création des Congo Airways. Toutes ces questions autour de lignes aériennes congolaises, les actifs, les passifs pourront être évoqués dans cette émission-là. À la prochaine, vous serez informé. Mais si je retiens dans votre intervention tout à l'heure, vous avez proposé des pistes, des solutions qui doivent accompagner ce processus de recertification. Mais il y a aussi la question que vous avez posée à notre invité, c'est par rapport à la taxe GoPass. Vous avez demandé de savoir cet argent fait quoi, parce que devrait en principe, l'argent devrait servir à la réhabilitation des infrastructures, des aéroports, tout ça. On pourra demander si peut-être il y a une question et une réponse. On verra. Merci beaucoup, Maître Francis, de nous avoir appelé de Kinshasa. À Kananga, Mathieu, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, merci bien pour la parole, monsieur le journaliste Pierrot.
On vous écoute, Mathieu.
Bon, c'est le prophète Mathieu. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je déplore la manière dont notre pays n'a jamais adopté une loi, c'est-à-dire un instrument juridique fiable des droits internationaux aériens. C'est là la cause, d'après moi, principale de plusieurs accidents et incidents que nous avons enregistrés dans notre pays. Prenons d'abord seulement l'exemple typique. Depuis 2007, l'aviation congolaise a été marquée par près de 150 accidents et incidents aériens, ayant causé plus de 214 morts et 40 blessés. Mettre ordre dans ce secteur est applaudi par le peuple congolais que nous sommes dans son ensemble. Mais nous gardons les stigmates du passé, comme le retrait de licence maintenant d'exploitation et d'interdiction ont été décidés sur base des avis techniques soumis à l'autorité de l'aviation civile par les consultants Pavero Service qui a réalisé le deuxième volet du processus de recertification financé par le gouvernement. Nous voulons palper la réalité à ce dossier sans être capable pour la survie du peuple congolais comme nous le considérons de notre part comme la redémarrage. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Merci pour toutes les précisions autour des chiffres, des catastrophes aériennes ainsi que le nombre de morts qu'on a beaucoup déploré. C'est pour cela, comme vous avez salué la mesure, notre invité l'a dit, qu'on puisse assainir le secteur et qu'on évite toutes tous ces crashs. Et d'ailleurs, vous avez terminé par dire vous voulez palper la réalité. C'est ça même le souhait de tout le monde dans cette émission. Il faut qu'on voie tout cela, les résultats sur terrain. Merci beaucoup, Mathieu. Judith, vous êtes à Lubumbashi, dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, madame.
Oui, Pierrot, je n'ai pas été là au début de l'émission. J'avais juste suivi cette émission en cours, mais je voulais dire ceci. La décision prise par le gouvernement, elle est bonne pour protéger les vies humaines. Mais ce que moi, je n'apprécie pas dans le système de notre gouvernement est que certaines bonnes décisions sont prises toujours avec un grand retard après que les dégâts aient été causés. Par rapport à cette décision, je présente certaines craintes.
Oui.
Il y a lieu que les entreprises frappées par ces décisions changent juste de nom et reprennent leurs activités normalement comme c'est fait avec les autres compagnies aériennes. Après des grands accidents qui ont endé presque toute la nation congolaise, elles ont changé de nom pour continuer leurs activités aériennes. Et cela sous l'impuissance du gouvernement. De deux, il y a lieu que ces décisions souffrent de la non-applicabilité. Mais j'aurais quelques propositions à donner.
Oui, allez-y.
Que le gouvernement congolais mette sur pied sa propre compagnie d'aviation avec beaucoup d'appareils, qui pourra aussi faire face aux difficultés, parce qu'avec ces décisions, il y a lieu qu'il y ait perturbation de trafic aérien. Mais si les gouvernements congolais mettaient sur pied beaucoup d'appareils, donc sa propre compagnie avec beaucoup d'appareils, on saura tant soit peu résoudre ces difficultés et aussi qu'on puisse faire respecter qu'il y ait aussi l'esprit. C'était ça mon intervention.
Merci beaucoup, madame. Vous avez rejoint d'ailleurs les soucis. Arsène le disait tout à l'heure, il y a aussi Maître Français qui a beaucoup insisté sur la compagnie aérienne nationale. On s'est dit, on va entrer en contact avec le ministère de Transport et Voies des Communications. On a déjà eu un débat quand il s'agissait du projet. Alors maintenant que tout est en train d'être accéléré, on pourra voir avec le ministère les contours de cette compagnie, combien d'avions on peut avoir, comment on peut résoudre le problème à travers le pays. Parce que la peur que vous avez, c'est la peur aussi des Français qui a dit, mais bon, s'il faut retirer les licences pour certaines sociétés, mais alors qu'est-ce qui va se passer dans le milieu? Vous savez, beaucoup de sociétés desservent le Congo profond. Qu'est-ce qui va se passer en ces milieux-là? Parce que les gens ont besoin de ces compagnies. On pourra voir aussi avec notre invité. Est-ce qu'au niveau des compagnies aériennes, il y a des compagnies qui sont capables de relier le Congo profond et répondre aux besoins de la population là où les autres compagnies ne sont pas en mesure d'arriver? Merci beaucoup, madame. Nous avons Léon qui est à Isiro, en province orientale. Bonjour, Léon.
Bonjour, monsieur Piro.
On vous écoute, Léon. Il y a des amis qui ont proposé aussi des pistes et solutions pour rendre cette mesure plus efficace sur le terrain. Quel est votre point de vue?
Ok, moi je vois cette mesure est bien raisonnée par notre gouvernement, monsieur Piro, parce qu'il y a d'autres compagnies qui ne veulent pas remplir des formalités. Et je propose ceci, que le gouvernement prenne une mesure efficace pour ces compagnies qui ne veulent pas se mettre en ordre. Et j'aimerais poser à notre invité, quelles sont ces compagnies qui sont fermés. Et est-ce que la CAA est aussi dans cette liste? Je vous remercie. C'est Léon Thibault qui est ici.
Merci beaucoup, Léon. Vous souhaitez que la mesure soit efficace. Vous avez demandé à notre invité si CAA, c'est sa compagnie, est concernée aussi par le processus. On pourra voir avec lui. Doucouré, vous êtes à Barak à garder la ligne. On vous accorde la parole, monsieur Jean-Marc Bajot. Vous avez suivi encore les uns et les autres. Mais aujourd'hui, y a-t-il des mesures, par exemple, palliatives, quand il y a des compagnies qui ne sont frappées par la mesure? Comment au niveau des compagnies, y a-t-il moyen de relier tous les Congos profonds, parce que c'est l'inquiétude aussi de nos auditeurs. Mais vous avez déjà répondu par rapport aux mesures pour dire que les gens ne pourront pas contourner cette décision pour aller créer d'autres sociétés sous d'autres noms, alors qu'ils sont frappés. Mais il y a aussi une grande préoccupation aujourd'hui. Ça représente quoi pour une compagnie aérienne de pouvoir passer à tous ces processus en termes de dépenses? Ça demande beaucoup d'argent de pouvoir se mettre au point en répondant à ces normes en termes de dépenses au niveau des compagnies.
Merci pour la parole. Oui, ça représente l'investissement d'un aspect financier, d'un aspect humain est très important. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que déjà 5 compagnies sont déjà occupées. Ça fait grosso modo à peu près 6 mois que 25 autres compagnies sont occupées, enfin même 30. Donc c'est clair que l'effort, et comme l'effort doit être fait par toutes les compagnies, ben finalement tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir passer au travers de ce processus, parce que ou alors c'est parce qu'on a un manque financier, il faut réaliser une somme de documentation qui est quand même très importante. Et donc finalement tout ce travail en parallèle, y en a quelques-uns qui ont déjà jeté l'éponge, qui disent non, je n'y arriverai pas, et finalement eux-mêmes ont décidé de ne même pas se présenter, et finalement on leur a retiré leur licence d'exploitation.
Oui.
Donc l'effort ça doit être soutenu, et c'est pas uniquement ça, vous savez, faire une aviation civile et transporter des vies humaines, en fait cet effort doit être permanent. En fait, on doit créer en fait au départ un processus, donc une compagnie avec des documentations, avec des hommes qui sont qualifiés, il faut acheter des avions qui soient aux normes, et puis il faut opérer de manière aux normes également. Et puis il faut superviser ce qu'on appelle le maintenir la sécurité, parce que faut savoir que l'action principale de l'aviation civile ou du non-exploitant, c'est la sécurité. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça le système de gestion de la sécurité. Vous allez entendre ça peut-être de plus en plus. On appelle ça le SMS, le Safety Management System. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment recommandé et poussé par l'OACI. Eux-mêmes ont sorti une annexe en juillet l'année dernière, qui est spécialisée sur la sécurité. Donc, un dirigeant de compagnie aérienne doit bien sûr gagner de l'argent, mais c'est pas son vecteur principal. Il faut d'abord transporter, parce qu'il faut avoir le droit de gagner cet argent. Et pour avoir le droit de gagner cet argent, il faut d'abord amener sa compagnie aux normes, d'abord assurer des opérations sécurisées, et puis après cela, quand tout ça s'est terminé, eh bien on opère, et donc on essaie d'en retirer un profit. Mais le profit est en fait un résultat, et pas un objectif immédiat. C'est le résultat d'une activité. Donc la sécurité, c'est vraiment ce qui drive, ce qui conduit en fait le ministre, que je salue au passage, ainsi que le directeur général de l'aviation civile. C'est la sécurité qui est en fait le leitmotiv, c'est celui-là qui nous conduit dans nos activités, dans nos actions. Et c'est la sécurité également qui a conduit le ministre à créer cette recertification des compagnies aériennes. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi. C'est vrai que la loi sur l'aviation civile, la loi nationale, elle est sortie très tard. Elle est sortie au 31 décembre 2010. Donc, ça fait pratiquement 3 ans et demi. Et si je mets en parallèle les accidents, parce qu'on a parlé, c'est vrai que le pays a fait face à des catastrophes, mais on n'est pas unique, malheureusement. Et vous savez, des accidents, il y en a partout. On a le Malaysian, l'Air Malaisie a disparu avec plus de 200 passagers à bord il y a quelques semaines. On ne sait même pas où ils sont. Mais les catastrophes arrivent partout. Et de surcroît, dans un pays tropical, comme la RDC, c'est un des pays au monde qui est l'un des plus difficiles à opérer, parce que nous faisons face à, je dirais, des éléments naturels qui sont supérieurs, parfois, par rapport à d'autres pays sur lesquels d'autres compagnies opèrent. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un climat africain et de surcroît un climat tropical, comme la RDC, par rapport à un pays comme en Europe. Bon, bien sûr, on a des tempêtes, on a des choses comme ça, mais si vous regardez rien que le mois d'avril aujourd'hui, il pleut beaucoup, il y a énormément d'orages, et c'est un climat qui est quand même très compliqué.
Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On doit surtout amener une aviation sécurisée d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue équipement, d'un point de vue homme. Mais également, et c'est clair que l'infrastructure va jouer son rôle, parce que si l'infrastructure est dégradée, ça augmente le facteur d'insécurité. Donc c'est vrai que le gouvernement est actuellement en chasse d'améliorer cette infrastructure pour réduire de plus en plus ce phénomène d'insécurité. Mais le résultat de tout ce que nous sommes en train de faire, accompagné par le gouvernement et par les compagnies elles-mêmes qui sont elles motivées à passer au travers de ces phases de certification, eh bien c'est d'aboutir à une aviation qui soit conforme et qui soit le plus sécurisée possible. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut faire reculer, il faut améliorer cette sécurité au maximum dans toute la chaîne. Que ça part du gouvernement jusqu'aux voyageurs, au travers des compagnies.
Il y a un auditeur qui tout à l'heure qui venait de vous demander si ça est concerné aussi par ces processus ou il est déjà passé par les processus.
Écoutez, le processus de certification, nous sommes tous dedans. Voilà, on était au départ à peu près 35 compagnies. De ces 35, il y en a 13 qui sont déjà plus là, donc il en reste 22. Dans ces 22, le CA se trouve bien sûr dedans, la compagnie africaine dedans, donc nous sommes bien sûr concernés par ces phases. On a tous passé la phase 2, donc tous ceux qui restent en course ont déjà passé la phase de déclaration des post-holders, enfin des dirigeants responsables, et puis ont déclaré leurs avions et leurs équipements, ainsi que leur destination. La troisième phase sur laquelle nous sommes en cours pour le moment, c'est la phase d'analyse de la documentation. Donc nous avons au démarrage rendu toute notre documentation d'exploitation, donc on a décrit auprès des autorités comment nous exploitons, et donc toutes les compagnies encore en course ont actuellement rendu cette documentation, et maintenant le gouvernement, au travers de l'autorité de l'aviation civile, assuré par deux consultants que sont l'IATA et la société ABAV, eh bien, sont en train d'analyser cette documentation. Donc, également, durant cette phase de documentation, il y aura des compagnies qui seront, j'espère qu'elles seront toutes conformes, mais si des compagnies ne sont pas conformes au travers de leur documentation, eh bien, ces compagnies feront l'objet d'un retrait de leur certificat d'exploitation. Donc la course est toujours dedans. Bien sûr, la compagnie africaine d'aviation est concernée puisque nous sommes dans ce processus et nous mettons tous les moyens nécessaires pour passer ce processus haut la main et un jour à pouvoir aboutir à notre nouveau certificat de transporteur aérien.
Avant d'écouter d'autres auditeurs, il y a aussi cette préoccupation par rapport aux mesures palliatives. Quand on retire des licences, ce sont quand même des compagnies qui rendent service à la population. Est-ce qu'au niveau de compagnies, y a-t-il des organisations de compagnies qui permettent aussi quand même de suppléer, de combler le Congo profond aujourd'hui, un peu rapidement avant d'écouter d'autres auditeurs?
D'accord. Eh bien, écoutez, à l'instar du directeur général de l'aviation civile, Monsieur Richard Nguyen, nous avons été convoqués, nous, les opérateurs, à une réunion concernant la mesure de l'impact de ces décisions par rapport au manque d'approvisionnement ou au manque d'accès à certains aéroports qui étaient desservis par les compagnies qui ont été visées par les retraits de licence. Alors, c'est clair que jusqu'à présent, l'impact n'est pas important, puisque le besoin a immédiatement été comblé par d'autres compagnies qui elles-mêmes opéraient dans ces régions. Il faut savoir que chaque région du Congo a une manière d'opérer ses déplacements qui lui est propre. Donc, si je parle pour la compagnie africaine d'aviation, nous faisons des vols qui sont temporels, donc ils sont programmés. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de régions, les vols ne sont pas programmés, ils sont faits à la demande. Donc, c'est-à-dire, je prends un exemple, dans l'est du pays, eh bien, c'est une association de commerçants qui rassemble les besoins pour un village ou pour une ville, et puis ils affrètent eux-mêmes un avion. Ils font leurs déplacements, ils transportent leurs biens et leurs personnes, et puis finalement l'avion est libéré. Et ça, c'est le gros impact qui peut être prononcé. Il faut savoir qu'une compagnie comme la compagnie africaine d'aviation, nous desservons beaucoup de petits aéroports à l'intérieur du pays. Je prends par exemple, on dessert Beni, Bounia, Iziro, etc. Mais il faut savoir que quand nous arrivons, ben parfois les passagers ne sont pas là. Donc il faut que quelque part, quand on envoie un avion de 50 places et que finalement on arrive quelque part pour débarquer un passager et en embarquer deux, mais finalement le vol il est à perte et on se demande nous si c'est bien de continuer à desservir une fréquence sur un village pour deux passagers ou un passager. Alors que lorsque eux-mêmes s'organisent, Ben, parfois, ils font venir un avion quand eux-mêmes ont 20 ou 30 passagers. Donc, c'est un petit peu ces questions et ces débats que nous devons avoir voilà. avec le gouvernement. Mm-hmm. Mais c'est clair que les mesures sont prises et que le gouvernement mesure ça de très très près. Et, voilà. Et jusqu'à Merci. Présent, l'impact des suspensions ou des retraits de licence d'exploitation n'ont pas encore eu un impact immédiat sur le transport de passagers ou de biens en RDC.
Voilà, Doucouré, vous êtes à Baraka, Guillaume Amaagi, on va vous écouter. Le temps de rappeler à nos auditeurs que la mesure de retirer de licence à certaines compagnies aériennes qui ne répondent pas aux normes en RDC autour de notre échange. Vous pouvez également aussi placer un mot au 081 890 6315.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Doucouré, vous nous appelez des Baraka au Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Oh. Bonjour, Radio Capi. Bonjour, l'invité. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Doucouré. Vous avez suivi les uns et les autres. Nous cheminons vers la fin de cette émission par rapport à cette mesure. Quelle est votre contribution au-delà de ce qui a été dit par les autres?
Oui. Par rapport à tout cela, j'encourage la décision du ministre en charge des transports, car les compagnies non fiables constituent un risque à la population et au gouvernement même. Mais aussi, je veux que la même décision ne puisse, je crains que la même décision ne puisse pas s'appliquer aux autres compagnies, ou voir que les mêmes compagnies suspendues dont on a retiré les licences reprennent encore les services sans toutefois se conformer. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté la personne X, qui est peut-être un vestige de pouvoir plus que le ministre des Transports. La deuxième préoccupation aussi, et je me pose cette question, est-ce que cette mesure n'est pas animée par les compagnies qui veulent assurer le monopole dans le secteur des transports aériens?
Voilà, parce merci.
Nous l'avons assisté en 2009 et 2010 au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Qui avait fermé certaines institutions non fiables, périodes universitaires, non fiables. Mais on a encore assisté à leur fonctionnement des jours après. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté une personne X, investie de pouvoir plus que le ministre de l'ICI. Alors, je crains que cela arrive, mais j'encourage en général la décision.
Merci.
Puisque c'est là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doucouré. Vous soutenez la décision, mais vous avez peur, hein? Votre crainte, c'est autour des trafics d'influence. Qu'on aille au lendemain de cette décision, une autre voie au-dessus de celle du ministre pour faire cesser la décision en donnant l'exemple, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, des universités fermées pour... non, viabilité, et alors réouverte quelques jours après, au nom du trafic de l'influence. Mais vous avez aussi peur que les compagnies qui répondent aux normes, qui veulent assurer les monopoles, ne puissent influencer la décision pour casser d'autres compagnies. C'est ça, votre point de vue. Merci beaucoup, Doucouré Guillaume. Vous êtes à Mahagi, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierron.
On vous écoute, Guillaume.
Bon, d'une part, il faut saluer les messieurs. D'une part, il faut saluer la mesure du ministre, autrefois il ne faut pas faire ceci. Je crois que la sécurité vient avant tout dans le domaine aérien. Pour moi, je pense qu'au lieu de retirer certaines licences, l'État devrait passer à supprimer certaines taxes spécifiques qui sont liées aux bénéfices de certaines individus. Aujourd'hui, les Congolais sont transportés par des compagnies étrangères. Quand même, c'est une honte. Les problèmes dans notre pays est au-delà des mots. Donc, il faut avoir des avions, il faut créer une nouvelle compagnie. L'État congolais doit considérer l'achat de sa population. Je propose, la RDC doit faire la compétitivité dans les domaines aériens. La RDC doit être présente dans les domaines de management avec une compagnie propre à elle. Il faut créer une condition d'enquête capable. C'est ce qui est fait. Il faut faire les suites. Il faut faire des actions purement citoyennes. Aujourd'hui, je crois que même la RDA n'a pas des équipements nécessaires. Les affairistes ont eu à profiter lorsqu'il y avait des vides à enregistrer au sein de l'État. Et voilà, je crois que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Mais je propose pour finir, la RDC doit avoir un ministre pilote propre à elle et non un juriste. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Guillaume. Vous souhaitez qu'au niveau du ministère, qu'on ait des pilotes comme ministre, hein, c'est ça votre souci. Ce sont des fonctions politiques, mais au-delà de tout, vous souhaitez une compagnie nationale. On pourra voir, hein, comme nous l'avons dit, on aura une émission plus élargie autour de cette compagnie nationale, voir comment pourra-t-elle fonctionner, tous les contours autour de celle qui a été en faillite. On pourra revenir là-dessus, mais vous insistez sur les mesures d'accompagnement autour de cette décision. On va terminer pour les auditeurs avec vous, Elodie. Vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour aussi à notre institut et aux auditeurs.
Vous avez suivi les uns et les autres, oui.
Qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même.
L'État
commence d'abord par retirer les licences des autres entreprises. Pendant qu'elle-même aussi, lui-même, pardon, comme c'est l'État, n'a même pas une entreprise de voies aériennes de bonne qualité. Elle n'en a pas. Elle ne dépend que des entreprises extérieures. Qui aide à faire à ces peuples, ceux qui ont besoin de voyager, d'utiliser des voies et moyens, et serait hors qu'ils pouvaient avoir une bonne compagnie aérienne. Deuxièmement, j'ai dit ceci, la vie de l'homme n'a pas de prix. Ils ont bien fait d'avoir remarqué qu'il y a des entreprises qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas de bonne qualité et qui ne fonctionnent pas d'une bonne manière. Ils ont retiré les licences. Quelles mesures ont-elles prises? Ou bien, comment font-elles des suivis pour que les autres entreprises aussi puissent suivre des règles comme ça, afin de ne pas tomber dans ce genre des erreurs? Parce que pour moi, d'autres entreprises qui fonctionnent doivent être interpellées. À bien imaginer comment ils fonctionnent, comment les règles de sécurité sont prises dans leurs entreprises. C'est ça. Pour moi, je voulais interpeller l'État en deux choses. Dans un premier temps, il devait avoir une entreprise aérienne de bonne qualité pour servir d'exemple à d'autres. Deuxièmement aussi, ceux qui fonctionnent aussi doivent être interpellés par le fait qu'on a retiré l'histoire des autres entreprises.
Merci beaucoup, Elodie. D'ailleurs, notre invité a bien insisté pour dire que toutes les compagnies sont concernées. Hein. C'est un processus à plusieurs phases. Deuxième phase, et quand on ne répond pas aux normes, on retire et sa licence. Mais vous souhaitez, comme beaucoup d'autres auditeurs, que l'État congolais puisse avoir une compagnie aérienne nationale capable de pouvoir résoudre le problème de la population. Et comme ça, les privés qui voudront bien exploiter le domaine aérien ont un point de repère qui est la compagnie nationale, et par là les gens pourront facilement respecter les normes. Mais quand les gens n'ont pas, il n'y a pas une compagnie nationale, c'est ainsi que les privés, ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas un point de repère. Merci beaucoup Elodie, merci à Guillaume, vous avez été très nombreux à pouvoir intervenir. Nous revenons à vous, monsieur Jean-Marc Pajot, parce qu'on va terminer cette émission. On a suivi les uns et les autres, il y a beaucoup d'espoir pour que la sécurité revienne dans le domaine aérien. Au-delà de tout ce qui a été dit, toutes les inquiétudes des auditeurs, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cette émission en une minute et demie?
Écoutez, ce qu'on peut retenir, c'est que on est tout actuellement dans une phase de mise à niveau, conduite au départ par la recommandation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui, je le répète aujourd'hui, analyse la RDC selon 8 critères que je vais vous citer. Il vérifie que la RDC est bien une réglementation appropriée. Il vérifie qu'il y a une organisation qui met en œuvre cette réglementation. Qu'on ait un bon bureau de licence pour pouvoir délivrer licence aux personnes appropriées selon des vraies qualifications et selon des qualifications des expériences avec une supervision continue. Il monitore les opérations aériennes et il voit comment en fait l'autorité supervise les opérations aériennes des exploitants en RDC.
Oui.
Ensuite, il y a un département qui s'occupe de la navigabilité des avions qui actuellement analyse l'état des avions en permanence, donc c'est également une supervision continue. Il a eu la mise en place d'un bureau des enquêtes et accidents qui s'appelle le bureau permanent des enquêtes et accidents sous le sigle BPEA, qui est actuellement opérationnel et qui actuellement améliore de jour en jour son travail. Ensuite, on doit monitorer les aides à la navigation aérienne congolaise.
Et pour finir, on doit monitorer les infrastructures.
Oui.
Alors, tout cela se fait au travers maintenant, d'une part, pour la partie opérationnelle, sur le point 4 que je viens de vous citer, et bien c'est là où se retrouve en fait la certification des compagnies aériennes en 5 phases. Et je vais juste résumer les 5 phases. C'est
oui.
en fait au départ une déclaration préalable, suivie d'une analyse des dirigeants responsables des avions et des escales qui vont être volées. Ensuite, il y a la documentation en phase 3. La phase 4, ça devient l'analyse sur le terrain qui va devoir être prononcée avant la délivrance d'un permis de transporteur aérien.
Oui.
Et en 5, c'est la délivrance du PDA. Donc tout ce processus actuellement est en cours, sous la supervision de son Excellence, et toutes les annonces de son Excellence fait actuellement sur le suivi, c'est de tenir en fait la République informée en fait de l'état d'avancement de tous ces processus.
Merci. Voilà, merci beaucoup Monsieur Jean-Marc Pajot d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs de FlyCAA, une des compagnies aériennes opérant en RDC. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à commenter à ces sujets autour de l'amélioration de l'espace aérien congolais.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain mercredi à 10h03, heure de Kinshasa. Spoliation à grande échelle du patrimoine immobilier de l'État. Le ministre des Infrastructures l'a reconnu la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Fridolin Kasechi répondait à une question d'actualité. Selon lui, cette pratique implique non seulement les cadres de l'administration publique, mais aussi ceux de l'armée et de la police. Que proposez-vous pour mettre fin à cette situation? Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jean-Claude Nchala a assuré la mise en onde. Berry Franklin Luchaka et Rose Nyanfoura étaient à la réalisation. Pierrot et la Meji vous la présentaient sous la supervision de Nicole Ngaka. Parole aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h03, heure de Kinshasa. Au revoir.